Grand service protestant par Michel Schaeffer, culte célébré par Gabriel Monnet, pasteur à Collonges sous Salève. 9h, le journal de la rédaction. 9h10, maison d'études par Victor Malka, les langues disent le monde, en compagnie de Claude Agège, professeur au Collège de France. 9h42, divers aspects de la pensée contemporaine, cette semaine, le droit humain. 10h, la messe présentée par le frère dominicain Éric Massé en direct de la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon. 11h, l'esprit public par Philippe Meyer. Bonne matinée sur France Culture. Tout de suite, les émissions religieuses du dimanche matin.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Amis, nous vous proposons aujourd'hui la 4e émission consacrée à l'histoire des conciles œcuméniques avec Olivier Clément, théologien et historien orthodoxe, mort en janvier 2009. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 12 septembre 1999. Bonjour. Dans la suite de nos émissions consacrées au Concile œcuménique, et en compagnie toujours d'Olivier Clément, nous allons aujourd'hui parler d'abord du 5e Concile œcuménique, un concile qui a été convoqué par un grand empereur, Justinien. Nous sommes au 6e siècle. Justinien est donc un empereur qui réussit à retrouver toute l'étendue de l'Empire.
Pas tout à fait.
Presque quand même. Et surtout vers l'Occident, des parties que...
Il a reconquis l'Italie en particulier.
Et l'Afrique du Nord. Et en même temps, un empereur qui se mêle à la religion, qui s'intéresse en tout cas à la religion. Peut-être il faut dire aussi qu'il a écrit aussi pour l'Église et il a une hymne que nous chantons toujours dans la liturgie qui vient de lui.
Fils unique et verbe de Dieu, etc.
Absolument.
Ô monogénis.
Et donc Justinien va convoquer lui aussi un concile œcuménique. Au 6e siècle, en 553, à propos de quoi et pour quelle raison, Olivier Clément?
Oui, alors il faut dire d'abord quelques mots de Justinien. Et Justinien est un grec très latin. Il a véritablement l'allure du grand soldat, du grand empereur latin. Il n'a pas de barbe, il est rasé, il est habillé, on parle latin d'ailleurs à sa cour. Quelqu'un comme le pape Grégoire le Grand, qui avait été envoyé à Pocrisière avant d'être élu évêque de Rome à Constantinople, n'a jamais appris le grec parce que tout le monde autour de lui parlait latin. Et Justinien, c'est lui qui a codifié le droit romain. Il a su unifier, n'est-ce pas, tout l'héritage de la législation ou des législations romaines. Et le droit romain que nous apprenons aujourd'hui en France dans les facultés de droit, c'est le droit qui a été codifié par Justinien. Il ne faut pas oublier cela. Et effectivement aussi, il a entrepris cette grande reconquiste du bassin méditerranéen. Il a mis la main sur l'Italie, il a mis la main sur l'Afrique du Nord. Il a reconquis une partie de l'Espagne. Il n'a pas touché la Gaule, mais le souverain franc avait reçu l'investiture, pourrait-on dire, de l'Empire. Donc il y a là un phénomène tout à fait extraordinaire. Il faut dire que Byzance, comme disent les historiens, ce qui ne convient pas du tout, car les Byzantins s'appelaient des Romains. Enfin, c'est un peu épuisé dans cet immense effort. L'époque de Justinien est une époque très riche au point de vue culturel. C'est une époque où la littérature, l'épigramme, la poésie, avec aussi des poèmes d'amour, n'est-ce pas, on a édité en français d'ailleurs, traduction de ces poèmes. Et aussi, dans l'Église, il y a une puissante création liturgique. Ce que nous appelons les Contakia, tout cela a été créé par de grands liturges qui étaient souvent pas des moines, forcément, à cette époque-là. Au contraire, les moines étaient assez hostiles. Les moines pensaient que les psaumes suffisaient. Pourquoi toutes ces hymnes, c'était trop. Et en fait, il y a eu ces Romanos de Mélode en particulier, qui était un diacre. Romanos de Mélode a écrit des hymnes magnifiques. Nous avons édité aux sources chrétiennes plusieurs volumes de ces hymnes de Romanos de Mélode, avec toutes sortes d'histoires très amusantes, si l'on peut dire, sur Romanos, pour montrer que le don de créativité qu'il avait était une grâce de Dieu. C'était un diacre qui n'osait pas élever la voix dans l'église. Il avait peur de bégayer, il ne savait pas parler. Et un jour, c'était la Noël. Ses compagnons l'ont poussé littéralement, l'ont jeté littéralement sur l'ambon. Et il a bien été obligé, et alors s'est élevé ce chant magnifique. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le supra-céleste prend chair, etc.
Écoutons donc ce condaction de Romanos de Mélode pour la fête de Noël. La Vierge en ce jour enfante le suprême Dieu, et la terre offre asile en une grotte à l'inaccessible. Les anges avec les bergers le glorifient, les mages avec l'étoile cheminent, car pour nous est mis au monde un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles.
Textes magnifiques qui ont été en partie perdus, d'ailleurs, avec la seconde grande vague de création liturgique qui est venue au 7e, 8e siècle, avec la création de ce qu'on appelle les canons. Canons qui correspondent à des hymnes bibliques, mais on a un petit peu oublié, quelquefois, les hymnes bibliques. On garde les canons. Et on a gardé quelques buts témoins qui sont des fragments de ces Contakia de l'époque de Justinien. Il y avait aussi des historiens, il y avait Procope, il y avait son histoire et son histoire secrète, où il racontait tous les scandales, tout ce qu'il ne fallait pas dire. Donc, vous voyez, une pensée extrêmement intéressante. L'art lui-même est très compliqué. Vous avez des mosaïques qui sont tout à fait des mosaïques de l'époque hellénistique ou de l'époque romaine, qui représentent des combats de bêtes fauves ou de gladiateurs contre les bêtes fauves. Et puis, en même temps, cette puissante créativité et la construction de la basilique des basiliques, n'est-ce pas, Sainte-Sophie, ce qui, Sainte-Sophie n'étant pas du tout une dame, il y a eu une dame romaine dont les trois filles s'appelaient Foi, Espérance et Charité, et elles ont été toutes les quatre martyrisées, mais Sainte-Sophie, c'est la Sainte-Sagesse. Et à côté, il y avait, il y a toujours, les Turcs en ont fait, et je trouve ça génial, je crois que c'est fini maintenant, un musée de la guerre, mais c'était Sainte-Irène, c'est-à-dire la Sainte-Paix, n'est-ce pas? Et pas loin, Sainte-Sophie, ça donne sur cette esplanade magnifique d'où on domine la mer à Constantinople, et il y avait aussi la Sainte-Puissance, Dynamis, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas très clair, ça a complètement disparu. Justinien avait un sens extraordinaire de la ville capitale. La ville capitale qui devait être un centre du monde. Donc une image, une anticipation de la Jérusalem nouvelle. Et c'est pour ça qu'il a voulu Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, qui est une église étonnante à cause de sa coupole. Quand vous entrez dans cette église, malheureusement, elle est défigurée actuellement par des échafaudages métalliques qui n'ont pas l'air de vouloir disparaître. Chaque fois que je vais à Istanbul, je vais visiter Sainte-Sophie et je tombe...
Ils y sont toujours.
Ils y sont toujours, hélas, oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la lumière. C'est une église extraordinairement lumineuse. Toute la façade qui est tournée vers l'Orient est vitrée et quand le soleil se lève... Alors, certaines mosaïques, il n'y a pas beaucoup de mosaïques à Sainte-Sophie. Certaines ont été recouvertes par les musulmans, mais pas toutes. Et alors, on voit l'enfant dans les bras de sa mère qui est atteint par les premiers rayons de la lumière. Et puis, par-dessus, cette immense coupole. Et cette coupole repose sur toute une série d'arcs à travers lesquels passe la lumière. C'est comme si la lumière du monde était saisie et retournée pour devenir la lumière divine. C'est une œuvre absolument incroyable. Et quand Justinien est entré pour la première fois dans Sainte-Sophie achevée, il a dit « Je t'ai vaincu, Salomon ». C'était l'idée du temple. Le temple de Salomon, lui, avait construit le temple du Christ au cœur de la ville qui devait être la ville centrale, n'est-ce pas, du christianisme, en tout cas du christianisme oriental à la seconde place après Rome à ce moment-là, n'est-ce pas. Donc vous avez cette extraordinaire richesse de l'époque de Justinien. Et en même temps, Justinien était tourmenté parce que dans cet empire qu'il avait réussi à élargir, dont il avait presque retrouvé l'ampleur méditerranéenne, dans la partie peut-être la plus peuplée et la plus riche à cette époque-là, c'est-à-dire le Moyen-Orient, il y avait ce schisme avec ceux qui n'acceptaient pas Chalcédoine, ce que nous appelons les monophysites. Et alors Justinien aurait voulu absolument régler ce problème, résoudre ce problème, et il n'y arrivait pas. Et il cherchait des formules de compromis. Et plus encore que Justinien, sa femme, Théodora, une grande personnalité aussi, elle a eu des débuts peu honorables, n'est-ce pas? Elle dansait, si l'on peut dire, dans des cabarets. Mais c'est ça, Byzance aussi. Il y a un côté démocratique de Byzance. L'empereur est élu. L'empereur n'est pas héréditaire. L'impératrice, eh bien, c'est la femme qui est choisie par l'empereur. Théodora était une intelligence assez extraordinaire. Elle avait une fermeté prodigieuse quand il y a eu une grande émeute à Constantinople et que Justinien a commencé à trembler et qu'il lui a dit, écoutez, on va fuir. Elle lui a dit non, il faut rester. Quand on est empereur, il faut mourir dans la pourpre. Et finalement, les troupes impériales ont maîtrisé l'émeute. Mais Théodora était très très préoccupée de trouver des formules d'accord avec les monophysites. Et alors, à ce moment-là, un problème s'est posé, qui était une sorte d'expansion discrète ou indiscrète, enfin, du monophysisme, et qui venait du fait que l'expression de Saint Cyril d'Alexandrie était reprise notamment dans le Trisagion, Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel. Dieu a souffert dans la chair. Dieu a souffert dans la chair. Alors, est-ce qu'on pouvait interpréter la définition de Chalcédoine dans cette perspective-là? Le divin est le divin, l'humain est le divin, mais ils sont pleinement unis dans la personne du Christ. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que le divin est entré si profondément dans la détresse de l'humain pour la vaincre, pour ouvrir des chemins hors de l'enfer, hors de la mort, que cette formule a tout son sens. Dieu a souffert pour nous dans la chair. Et alors, ce thème du Dieu crucifié répercuté par un trisagion développé, ça plaisait beaucoup, ça attirait beaucoup. Les foules étaient très passionnées par cela. C'est un peu comme pour le problème de la Théotokos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les partisans de Calcédoine, qui étaient un partisan un peu trop peut-être de la lettre que de l'esprit de Calcédoine, disaient il faut rejeter cette formule. L'empereur a pris l'option opposée. Il a dit il faut garder cette formule, il faut interpréter Calcédoine à travers la pensée alexandrine, à travers la pensée de Saint-Cyrille d'Alexandrie. Et peut-être comme ça, nous arriverons à rallier justement tous ces chrétiens qui se sont séparés de nous. Et en 544, il y a eu un édit de Justinien qui condamnait ce qu'on appelle les trois chapitres, c'est-à-dire l'ensemble de l'œuvre de Théodore de Mopsueste et certains chapitres, mais pas l'œuvre tout entière, de Théodore de Cyr et d'Ibas d'Édesse qui avaient critiqué Cyrille d'Alexandrie. Par chance, on n'a pas condamné totalement Théodore de Cyr et Ibas d'Édesse, ce qui permettra plus tard, et notamment au 6e et au 7e concile œcuménique, de réintégrer dans la grande règle de foi la tradition d'Antioche, pour ce qu'elle avait de meilleur. À ce moment-là, il y a eu des protestations, il y a eu des réserves, il y a eu des troubles, et Justinien a lancé une confession de foi en 551. En Afrique du Nord, la protestation a été extrêmement forte. Le pape Vigile a pris au fond position contre la confession de foi de Justinien. Justinien l'a fait arrêter. Justinien l'a fait arrêter et l'a fait amener à Constantinople. Et pendant toute la durée du concile, le pape Vigile était là, mais il était là assigné à résidence. Il était là assigné à résidence et il n'a pris aucune position, il s'est refusé à condamner les trois chapitres, il s'est refusé à accepter la profession de foi de l'empereur. Finalement, il y a eu tellement de troubles, de protestations, d'affirmations des uns et des autres, que Justinien a été obligé de convoquer un concile.
Faisons une pause maintenant pour entendre justement notre père que Justinien a composé et qui est chanté au cours de la liturgie. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel, et qui daigna pour notre salut t'incarner de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et qui sans changement te fit homme et fut crucifié. Ô Christ Dieu, par la mort ayant vaincu la mort, étant l'un de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous.
Le concile s'est réuni à Constantinople en 553, sans le pape qui essaie de garder une attitude de neutralité dans cette affaire. Ce n'était pas un concile très nombreux, il y avait seulement 165 évêques. Et ils ont fait cependant un travail qui me paraît extraordinairement intéressant, extraordinairement important pour la compréhension du christianisme en profondeur. D'une part, ils ont accepté cette grande affirmation « Dieu a souffert la mort dans la chair ». Il y a vraiment cette affirmation, c'est un peu le drame de la Théotokos. Est-ce que ce petit enfant dans les bras de Marie, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Est-ce que cet homme qui agonise sur la croix et qui va jusqu'à dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu, n'est-ce pas? Voilà cette affirmation tout à fait extraordinaire. Le Dieu des chrétiens est un Dieu crucifié. Crucifié avec nous, avec toute la souffrance des hommes, à longueur de toute l'histoire, et ressuscité, crucifié et ressuscité. Et là, il y a quelque chose de magnifique. Je crois que de ce point de vue, le 5e Concile œcuménique a fait une œuvre extraordinaire. Par ailleurs, il a été amené alors à condamner l'origénisme. Alors, qu'est-ce que l'origénisme? L'origénisme, c'est la systématisation, en grande partie par des disciples abusifs, de la pensée d'un génie du 3e siècle qui s'appelait Origène. Origène a été, qui était un alexandrin d'ailleurs, et qui a beaucoup vécu en Syrie, a été un extraordinaire explorateur dans des domaines qui n'avaient pas été tellement touchés par la pensée chrétienne. Et très souvent, il dit quelque chose, et puis il dit oui, mais peut-être on pourrait dire autrement. Il a une pensée extrêmement nuancée. Mais ses disciples, et notamment Évagre, qui a joué un très grand rôle du point de vue de la spiritualité, d'ailleurs, parce qu'il a conceptualisé ou tenté de le faire l'expérience des moines du désert d'Égypte. Ses disciples ont durci les positions d'Origène. Là où il y avait une interrogation, ils n'ont vu qu'une affirmation. Et on a abouti à un système assez inquiétant. Un système spiritualiste. L'idée, le système, c'est le suivant. Au début, Dieu a créé toutes les âmes en même temps, n'est-ce pas? Et il les a créées dans une espèce de plénitude extraordinaire de lumière et de joie. Et c'était trop tôt, elles n'étaient pas prêtes. Elles se sont senties écrasées, elles ont voulu courir l'aventure de la liberté. Il y a des intuitions d'ailleurs dans tout cela. Et alors elles se sont éloignées de Dieu. Et en s'éloignant, psychas, il y a une espèce de jeu de mots, en se refroidissant, des mondes sont apparus autour d'elles par groupe ou par individu, des mondes que Dieu a consolidés, mais qui sont au fond des subjectivités refroidies, pourrait-on dire. Et il y a même des choses très drôles, puisque Origène, et ça il l'a dit, penser que plus on habitait loin de la Méditerranée, plus on s'était éloigné de Dieu. Dieu avait donné comme habitat à ceux qui restaient encore assez proches de lui, la Méditerranée et ses côtes. Les autres, soit dans la chaleur brûlante des tropiques, soit surtout dans le froid des pays nordiques, c'était vraiment les âmes qui étaient les plus lointaines, n'est-ce pas? Bien. Alors, l'idée était la suivante. C'est que ces âmes qui avaient quitté la plénitude prématurées qui leur étaient données, ces âmes, elles cherchaient Dieu, parce qu'elles étaient toutes créées par Dieu, elles étaient toutes à l'image de Dieu. Mais elles le cherchaient en le fuyant. Elles cherchaient loin de lui. Et alors, partout où elles allaient, dans le monde humain, mais aussi dans des mondes infernaux, n'est-ce pas, plus ou moins éloignés de la Terre et des différentes régions de la Terre où elles se reflétaient tout de même. Et toutes ces âmes cherchaient Dieu. Et un jour, toutes, sans exception, y compris les âmes des démons, ne pourraient pas ne pas se rendre compte que seul Dieu pouvait répondre à leur soif de plénitude, à leur soif d'absolu. Qu'elles avaient cherché partout, à tort et à travers, dans toutes sortes de déons, c'est-à-dire d'univers spirituels. Et alors toutes retourneraient vers Dieu. Ce serait l'apocatastase, c'est-à-dire le rétablissement de tous dans la lumière divine. Et alors, le 5e Concile a condamné d'abord l'idée que la matière soit simplement la condensation d'une subjectivité opposée à Dieu. Dieu a créé la matière, Dieu a créé la chair, la matière et la chair sont bonnes. Voilà ce qui est nettement affirmé, et ça c'est biblique, n'est-ce pas? Profondément biblique. Il a condamné aussi l'idée que, automatiquement, pourrait-on dire, tout serait rétabli, tout serait sauvé. La condition chrétienne est une condition plus dangereuse. Il y a le risque, il y a tous les risques, y compris le risque de la mort éternelle, n'est-ce pas? Alors, voilà ce qui a été posé. Et ça me paraît tout à fait extraordinaire. Et alors, je dirais ceci, c'est que l'idée du salut universel a été refusée comme système, comme fatalité, par le 5e Concile, et au même moment, déjà avant et encore après, a été récupéré comme prière. Nous ne sommes pas du tout sûrs que tous seront sauvés, mais nous devons prier pour que tous le soient. Ce que faisait au 4e siècle un saint Grégoire de Nice, ce que fera à peu près à la même époque où nous sommes au 6e siècle, un Denis l'Aréopagite, nous ne savons pas très bien qui il était, ni quand il vivait, mais à ce moment-là sans doute, ce que dira un peu plus tard, au 7e siècle, un saint Isaac le Syrien. Il y a là toute une tradition qui est une des hautes traditions de la spiritualité orthodoxe.
Amen.
C'était la quatrième émission consacrée aux conciles écuméniques avec Olivier Clément. Notre prochaine émission, dimanche 14 février, nous recevrons Jean-Claude Larcher pour parler de son livre « Théologie du corps ». Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.com.
Vous écoutez France Culture. France Culture, ce lundi 1er février, vous attend à 20h aux ateliers Berthier pour un enregistrement public des Remplaçantes, une pièce inédite du poète et dramaturge grec Dimitris Dimitriadis. Un rendez-vous unique et exceptionnel pour cette lecture dirigée par Marcel Boisonnet, avec notamment Nada Strancard et Roland Bertin, l'un des premiers comédiens à avoir joué Dimitriadis en France, et le guitariste et compositeur Claude Barthélémy.
Je voudrais revoir les grenadiers, nos pommiers, les mauves rouges, les mimosas, les herbes hautes, les champs et nos jardins.
Les Remplaçantes de Dimitris Dimitriadis, ce lundi 1er février à 20h aux ateliers Berthier, boulevard Berthier à Paris dans le 17e. Réservation 01 44 85 40 40. Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin à l'écoute du service protestant. Le culte de ce dimanche est présidé par le pasteur Gabriel Monet, professeur de théologie pratique à la faculté adventiste de théologie de Collonges sous Salève. Un culte pour nous mettre en mouvement, intitulé « Lève-toi et marche ».
Pouvoir marcher. Voilà un ingrédient vital de notre vie. Pouvoir marcher, c'est la possibilité de se déplacer, de découvrir de nouveaux horizons, de partir à la découverte, d'aller vers l'autre. Or, dans l'épisode biblique sur lequel nous voulons porter notre intérêt aujourd'hui, nous découvrons un homme qui est dans l'incapacité de marcher et qui va, grâce à l'intervention de Jésus, découvrir toutes les potentialités qu'il y a à se mettre debout et à mettre un pas devant l'autre. En nous racontant cette guérison, l'Évangile nous parle d'un handicap dont nous sommes tous plus ou moins atteints. Parce que la paralysie corporelle est d'abord paralysie d'une âme qui se fige. Mais le projet de Jésus, pour cet homme comme pour nous, est que nous puissions vivre, courir, danser, croquer la vie. Bienvenue pour ce service protestant sur France Culture. Bienvenue aussi peut-être dans la maison où se passe la scène biblique que nous allons évoquer, où la foule est rassemblée pour écouter Jésus. Mais attention, parce que Jésus ne laisse pas indifférent. Il bouscule, en tout cas les idées. Il met le doigt sur nos paralysies, parce qu'il veut nous mettre en marche. Sommes-nous prêts ce matin à sortir de nos immobilités ? Voici comment l'évangéliste Marc nous raconte cet épisode. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum.
On apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. On vint lui amener un paralytique, porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener à Jésus à cause de la foule, ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon paralytique,